Bonjour Ali, bonjour à tous. Combien seront-ils aux Invalides cet après-midi à Paris pour rendre hommage à Jacques Chirac, l'ancien président de la République, mort jeudi à l'âge de 86 ans? Nous serons avec ces premiers anonymes venus se recueillir devant le cercueil. Nous nous demanderons si c'est une certaine idée de la droite dont on salue la mémoire aujourd'hui. Et notre invité reviendra sur son héritage à Paris, notamment l'élue de la capitale Marie-Claire Carrère-Gé. Elle a aussi été la conseillère sociale de l'ex-président. La qualité de l'air est habituelle selon la préfecture de Rouen qui ordonne quand même aux agriculteurs de ne pas récolter. Après l'incendie de l'usine Lubrizol, des députés de gauche demandent une enquête parlementaire. Nous irons aussi en Autriche, élections législatives. La droite et surtout l'extrême droite vont tenter de se maintenir au pouvoir. Et puis au Japon, où le 15 de France s'inquiète à l'approche d'un typhon, leur prochain match pourrait être annulé.
France Inter.
L'hommage populaire, l'hommage des Français avant les honneurs officiels. Des anonymes vont pouvoir se recueillir devant le cercueil de Jacques Chirac cet après-midi dans la cour des Invalides. Seront-ils des centaines, des milliers à partir de 14h? Depuis la mort de l'ancien président jeudi et jusqu'à hier soir, plus de 5000 nostalgiques du chef de l'État sont venus à l'Élysée pour signer des registres, les livres de condoléances transférés aux Invalides où l'on retrouve Rémi Brancato. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Alors, y a-t-il déjà du monde pour cette cérémonie funéraire voulue tout d'abord pour les Français ?
Oui, une foule populaire mélangée qui se presse dans une file d'attente de plusieurs centaines de personnes ici devant les grilles des Invalides, encore fermées pour une heure, gardées par les gendarmes. Des anonymes de tous âges, Émilien, 22 ans, étudiant ingénieur, a quitté Marseille pour cet hommage.
J'arrive à peine ce matin, là je repars tout à l'heure. Oui. Je suis venu pour l'occasion. Quoi, oui. Impossible de manquer ce moment. Pour quelqu'un de ma génération, ça a été le président de la moitié de notre vie, la première moitié de notre vie. On a des incroyables, une part de chaque Français qui disparaît avec Jacques Chirac. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais écrit comme cela à l'Élysée. J'avais reçu un portrait dédicacé à la main du président Chirac avec mes cordiales amitiés, une petite lettre, tout cela. Donc ce sont des choses qui marquent.
Émilien va se recueillir sur le cercueil du président Chirac qui est en train d'arriver. Le cortège funéraire arrive sur l'esplanade des Invalides sous nos yeux. Il doit être installé dans la cour devant la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Et en attendant d'entrer ici, chacun se remémore un souvenir parfois très personnel, comme Odile Dano qui a quitté hier son exploitation agricole de Bretagne spécialement pour l'occasion.
Il est venu même chez nous, dans notre exploitation. Mais il est venu chez nous comme un père de famille, quoi. Il nous embrassait cordialement, très émouvant. Et là, on va voir son cercueil, donc on aura fait notre deuil à nous aussi. Quoi. Voilà.
Un deuil populaire avant le deuil national prévu demain. Les grilles des Invalides doivent s'ouvrir d'ici une heure maintenant. Le cortège funéraire qui amène ici le cercueil de Jacques Chirac est en train de passer sur l'esplanade des Invalides sous les applaudissements du public massé devant les grilles des Invalides.
À l'instant, effectivement, devant vous, Rémi Brancato aux Invalides, le cortège funéraire arrive. Donc, les grilles vont ouvrir à 14h. Demain, le cercueil partira vers l'église Saint-Sulpice, toujours rive gauche à Paris, avec un service solennel à midi en présence du président Macron et de nombreux dirigeants étrangers, dont le russe Vladimir Poutine, l'allemand Frank-Walter Steinmeier ou le congolais Denis Sassou Nguesso. 15h demain, minute de silence dans les administrations et les écoles. Bonjour Marie-Claire Carrère-Gé.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de France Inter aujourd'hui. Vous êtes conseillère de Paris, élue dans le 14e arrondissement pour la droite. Vous avez été la secrétaire générale adjointe du président Chirac au début des années 2000. Ça lui correspond assez bien, cet hommage populaire avant tout.
C'est lui. Et vous avez raison d'interroger ce qu'on appelle les anonymes et que Chirac aurait appelé les Français, parce que c'est eux qui en parlent le mieux. Plus de 40 ans de vie politique. Je crois que si on recensait tous les gens, toutes les familles qu'il a rencontrées, on sait pendant toutes ces dizaines d'années, on trouverait un chiffre énorme, énorme. Et c'est ce qui explique aussi sa longévité politique, c'est-à-dire que, et dans de telles conditions, c'est-à-dire qu'il a jamais perdu le contact avec les Français. Après 40 ans, on dit que le pouvoir isole, et il a tout le temps été à haut de l'affiche, Chirac, que soit
Premier
ministre,
etc. Mais est-ce qu'il n'est pas encore plus populaire aujourd'hui, après le pouvoir, justement ?
Ben, il y a eu, évidemment, des hauts et des bas. Hein, une vie politique de plus de 40 ans, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, et puis on n'est pas en train de parler de juste d'une icône. C'était quelqu'un, c'était un être de chair et d'os, quelqu'un qui était libre dans son esprit, c'était quelqu'un qui était engagé dans son combat politique, parce que c'était un homme politique. Mais, voyez, on fait souvent la différence entre d'un côté le président et de l'autre l'homme. Mais si ça a été un grand président, c'est parce que c'était un grand homme, et un homme qui était si proche des Français, quelqu'un à qui les Français s'adressaient naturellement. Vous savez, quand on est au pouvoir, quand on est en responsabilité, les gens peuvent vous parler, ils peuvent être intimidés, d'autant plus qu'on se montre soi-même intimidant, qu'on se montre en posture d'autorité. Chirac, il faisait pas ça. Les gens lui parlaient sincèrement, normalement, et il a toujours gardé le contact.
Il avait le contact avec les Parisiens aussi, puisque c'était le maire de Paris avant d'être le président.
Bien
des
sûr,
Français.
C'est lui qui a permis à Paris de se libérer. Vous savez, Paris était administré par un préfet. Alors un préfet, c'est un grand serviteur de l'État, c'est quelqu'un de très compétent, mais c'est quelqu'un qui est le bras de l'État, tout simplement. Et Paris.
Mais il a été premier maire de Paris.
Bien sûr, de l'ère moderne, en fait, en 1977. Et vous vous souvenez, Valéry Giscard d'Estaing avait voulu que un maire soit élu à Paris, mais il avait lui-même proposé un candidat qui avait d'ailleurs fait son annonce de candidature sur le perron de l'Élysée. Et Jacques Chirac a interpellé les Parisiens et il leur a dit « Vous êtes libres, vous êtes les habitants d'une capitale de la Ville Lumière et vous n'avez pas besoin d'être soumis à l'État comme ça. » Et dès le départ, au terme d'une campagne éclair de 2 mois, il n'avait pas lui-même anticipé qu'il serait maire de Paris un jour. Ça a été ça, ça a été son génie politique, son génie de stratège de campagne électorale, plus le lien. Il a tout de suite compris ce qu'il fallait dire aux Parisiens et que cette élection pouvait être un moyen pour les Parisiens de satisfaire leur désir de liberté, d'indépendance, comme Paris a toujours pu se montrer rebelle vis-à-vis du pouvoir central.
Et vous, élue de Paris aujourd'hui, vous portez son héritage?
Bien sûr,
de maire.
Dans le groupe que j'ai l'honneur de présider, qui est donc le
qu'est-ce
groupe
vous a
historique
légué
de des millions de choses, à la fois des très grands. Je crois que c'est la particularité, c'est que c'était un homme à la fois visionnaire. On parle de l'avenir de la planète. Franchement, il y a le discours de Johannesburg, mais il y a aussi la première stratégie nationale de développement durable, le premier plan santé et environnement. Enfin, il était vraiment visionnaire et dans l'action, et de grande proximité. C'est ça, je crois, qui fait son équation si particulière. Et je crois que c'est pour ça qu'il va rentrer dans l'histoire. C'est un grand président et qui n'a jamais rien lâché sur les valeurs de la République. Il a toujours été intransigeant, y compris quand son propre camp politique n'était pas d'accord avec lui.
Marie-Claire Carrère, je vous propose de retourner aux Invalides avec Laurence Perron pour l'aspect politique. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Alors on a entendu les anonymes et Marie-Claire Carrère à l'instant. Les Français font-ils leurs adieux aussi aujourd'hui à une autre manière de faire de la politique, à l'ancien monde, hein, comme le qualifie l'actuel locataire de l'Élysée?
Alors pas si ancien monde que ça en fait, si on s'en réfère d'ailleurs aujourd'hui à la volonté de l'Élysée, d'Emmanuel Macron, à cet acte 2, envisagé comme plus bienveillant, plus à l'écoute des Français, plus proche du terrain. Ça n'est pas dit exactement, mais on demande vraiment au ministre de prendre exemple sur ce que pourrait être la politique de la louche de Jacques Chirac. Vous savez, il était capable d'avaler avec ses grandes mains des kilomètres de foule pour aller saluer tout le monde. Le président au cul des vaches, hein, comme il l'exprimait sans mépris, c'est ce Chirac-là que les gens ici viennent saluer. Le marathonien du salon de l'agriculture, le politique qui demandait personnellement à ses équipes de gérer l'affaire de telle école en Corrèze ou de tel pont dans l'Yonne. Pas le premier ministre droitier de 1986 qui privatisait à tout va, flanqué d'un Charles Pasqua qui lui soufflait à l'oreille les lois répressives et les embrouilles politiques. Non, c'est l'homme qui s'est fait élire sur la fracture sociale, l'homme d'État qui en 96 refuse de faire écarter des Palestiniens en colère à Jérusalem, qui empêche l'accession en 2002 du pouvoir du FN et qui dit non à la guerre en Irak en 2003. C'est à ce Chirac-là que les Français massés ici viennent dire au revoir.
Laurence Perron en direct des Invalides à Paris avec François Rivalin au moyen technique. Merci à vous deux. Marie-Claire Carrère-Gé, vous êtes en studio avec nous. C'est la fin d'une certaine idée de la politique, la mort de Jacques Chirac aujourd'hui?
Ah, je crois pas, il faut que, enfin, j'espère que Jacques Chirac inspire tout le monde parce que c'est une magnifique réussite. Je crois qu'il n'y a pas de politique si on n'est pas, si on n'est pas proche des gens. Dans la façon dont les Français le perçoivent, d'ailleurs, ils comprennent bien que ces serrages de main, ces embrassades par dizaines de, ou centaines de milliers, c'était pas construit. C'était pas pour parce que un jour il avait décidé d'être bienveillant, parce que un jour il a décidé que finalement les Français étaient intéressants. C'est parce qu'il les portait en lui, c'est parce qu'il était lui-même français, qu'il était à la fois un Corrézien qui savait parler aux paysans, comme il disait, comme il était le seul à s'autoriser le droit de le dire, et pas agriculteur, il était paysan. En même temps, c'était quelqu'un qui c'est quelqu'un qui séchait les cours quand il était jeune pour aller au musée Guimet. C'est quelqu'un, c'est le fondateur. Enfin, c'est lui qui a voulu le musée des arts premiers. Enfin, c'est pas des contradictions. On le présente comme un homme de contradiction. C'est qu'il était tout ça à la fois. Et ça, c'est pas une façon qu'il a décidé d'être. C'est ce qu'il était. C'est ça qui fait. C'est cette sincérité-là.
Ce qu'il était aussi, Marie-Claire Carrère-Gé, il faut quand même en dire un mot aujourd'hui, surtout quand on parle de Paris et de son mandat à la mairie de Paris. Ce sont les affaires aussi aujourd'hui. Et ça, c'est une partie de l'héritage dont...
Ah mais j'ai aucun problème pour en parler. C'est simplement que Jacques Chirac a une longévité politique exceptionnelle. Tous les partis politiques, enfin avant les lois sur le financement de la vie politique,
c'était une autre manière de faire de la politique.
Oui,
aussi.
Mais enfin ça fait longtemps qu'on l'a quitté. Enfin le procès de Jacques Chirac, il a été tardif, mais ça fait longtemps que cette manière-là, elle est dernière nous. Et tous les partis ont eu leurs soucis. Lui, la particularité de Jacques Chirac, c'est que lui, il l'a pris personnellement. Quoi. Enfin, d'autres, ça a été le parti,
condamné,
etc.
à 2 ans de prison, voilà. Avec sursis.
Mais enfin, moi, ce que je retiens de Paris, ça n'est pas seulement que quand il était élu, on finance, mais c'est pour partie autrement la politique. C'est que c'est un grand maire aménageur, c'est un maire qui a rendu à Paris son prestige. Le théâtre du Châtelet, c'est quelqu'un qui a rééquilibré Paris à l'Est. Je rappelle que Paris, à l'époque, quand il a pris la mairie, c'était des taudis, c'était des bâtiments insalubres. Et désormais, c'est plus ça.
Jacques Chirac, le Parisien, enterré demain au cimetière du Montparnasse, dans le caveau familial où repose déjà sa fille aînée, Laurence, morte il y a 3 ans. Alors l'inhumation n'a pas eu lieu, mais ça n'empêche pas certains de se rendre déjà sur la tombe de l'ancien chef de l'État où son nom vient d'être gravé. C'est le reportage de Maïwenn Bordron.
La tombe de Jacques Chirac se trouve au bout de l'avenue principale du cimetière, près d'un grand rond-point. Son nom a été gravé hier en lettres bleues sur la stèle. Pas d'ornement, ce qui plaît à Rosemary, une habitante du quartier.
Elle est très bien. La sobriété, on a beau être un grand personnage, la sobriété, c'est l'élégance.
La tombe de l'ancien président se trouve à 2 pas de celle de Serge Gainsbourg. Les beaux-parents de Cécile sont également enterrés juste à côté.
Les parents seront entre M. Chirac et M. Gainsbourg. Donc on voit déjà pas mal de gens s'arrêter sur la tombe de Serge Gainsbourg. On voit les tickets de métro, beaucoup de fleurs... c'est ce qui rend un cimetière vivant, si je peux dire ça comme ça.
D'autres célébrités reposent dans le cimetière, comme Mireille Darc, Agnès Varda ou encore Serge Reggiani, des célébrités qui attirent beaucoup de touristes, comme Massieu.
On est venu de Londres pour le week-end. On s'est rendu à Montparnasse pour voir Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. On ne savait pas que Chirac était là, on est passé là par hasard. Je me rappelle de l'élection entre Chirac et Le Pen il y a pas mal d'années, ça avait fait les gros titres à Londres.
Un peu plus loin, des touristes péruviens. Les hommages viennent de toutes parts en attendant l'inhumation de Jacques Chirac demain dans la plus stricte intimité.
Dernière question, Marie-Claire Carrère-Gé. Est-ce qu'il y aura des places ou des avenues Jacques Chirac à Paris ?
Naturellement, dès jeudi 15h, Anne Hidalgo a réuni l'ensemble des présidents de groupe. J'ai formulé ce souhait et d'ailleurs, j'ai pas eu besoin de la convaincre. Elle avait ça aussi en tête. Maintenant, le lieu, qui doit être très emblématique et grand, et qui doit relier tous les coins de Paris, ce lieu, il va être décidé en commun entre la municipalité, au terme d'une discussion avec la famille. Donc, pas que je peux pas dire, c'est que c'est pas encore totalement décidé.
Merci beaucoup, Marie-Claire Carrère-Gé, d'avoir été notre invitée à la mi-journée sur France Inter. Je rappelle que vous êtes élue dans le 14e arrondissement de la capitale et que vous présidez le groupe LR au Conseil de Paris. L'hommage à Jacques Chirac, c'est à suivre dans nos prochaines éditions avec nos reporters en direct des Invalides et sur franceinter.fr.
Le journal de 13h sur France Inter.
ce n'est pas un linceul, heureusement, mais c'est un voile sombre qui recouvre et inquiète depuis jeudi aussi la ville de Rouen, les émanations de l'incendie à l'usine Lubrizol. Les habitants tous se plaignent de maux de tête. Les autorités aujourd'hui sont accusées de ne pas assez communiquer, de ne pas jouer la transparence sur les risques sanitaires d'un tel nuage. Le Premier ministre Édouard Philippe a assuré ce matin que l'engagement du gouvernement était de répondre à toutes les questions et de faire justement la transparence totale. La préfecture de Seine-Maritime a publié hier soir les résultats d'analyse, qualité de l'air habituelle et le préfet Pierre-André Durand d'ordonner le gel des productions et des récoltes.
Les productions végétales non récoltées ne devront pas l'être. Celles qui ont été récoltées avant le 26 septembre et susceptibles d'avoir été exposées, qui par exemple auraient été entreposées au bord d'un champ ou autre. De même que le lait collecté issu d'élevages dont les vaches étaient en pâturage depuis le 26 septembre, les œufs des élevages, le miel collecté, etc. Tous ces éléments devront être consignés sous la responsabilité de l'exploitant jusqu'à obtention de garanties sanitaires sur les productions et sur la base de contrôles officiels et d'une évaluation du risque sanitaire.
Une très mauvaise nouvelle pour les agriculteurs, comme nous le confirme Guillaume Cabot, le président des jeunes agriculteurs de Seine-Maritime.
Les conséquences vont être multiples. Aujourd'hui, on est en pleine récolte de maïs en silage, donc c'est le maïs qui sert de foie pour toute l'année pour les éleveurs laitiers. C'est le gros moment où les agriculteurs font leur stock. Donc, qui dit pas de récolte, dit clairement pas de stock pour les animaux et une qualité de matière première qui va se dégrader au fur et à mesure des jours, sachant que le maïs était à point ces jours-ci pour être récolté. Et je pense notamment aux éleveurs qui travaillent avec des denrées périssables. Alors, mettre sous consigne, ça va engendrer de lourdes pertes économiques pour nos éleveurs.
Guillaume Cabot des jeunes agriculteurs, des propos recueillis par Noémie Lair à France Bleu Normandie. Des députés de gauche, dont Delphine Bateau et l'insoumis Éric Coquerel, réclament de leur côté une commission d'enquête parlementaire dès la semaine prochaine, demande Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste. Il y a urgence à rassurer les riverains, nous dit-il.
Il faut des conditions objectives qui permettent à chacun de se rassurer sur la nature de ce qui a été brûlé pour Rouen et puis pour servir de leçon pour les autres sites Céveso, parce que ce n'est pas le seul site Céveso seuil haut en France. Et j'ajoute qu'il est urgent aussi que le gouvernement prenne un arrêté de reconnaissant la catastrophe technologique pour permettre à ceux qui sont assurés de pouvoir s'en prévaloir auprès de leurs assurances. Et donc là, il y a une absence de réactivité de ce gouvernement qui est inquiétante. Il y a certainement la volonté d'apaiser, de ne pas affoler, mais en cherchant de manière exagérer à apaiser la situation, en réalité, il ne crée que l'angoisse et le soupçon.
Le socialiste Olivier Faure, interrogé par Jean-Michel Naga, une enquête judiciaire a été ouverte juste après l'incendie, jeudi, pour destruction involontaire. Le parquet l'a élargi hier au chef de mise en danger d'autrui. Et si vous habitez dans la région et que vous voyez de la suie tomber dans votre jardin, il faut le signaler à la gendarmerie, à la police ou aux services départementaux d'incendie et de secours. C'est un appel de l'Agence régionale de santé pour faire un recensement des territoires touchés, une cartographie des dégâts. L'enquête se poursuit autour de Tariq Ramadan également. Elle vient même d'être élargie à de nouveaux faits remontant à 2015 et 2016, de nouvelles victimes potentielles de l'islamologue suisse, déjà mises en examen pour des viols qu'il conteste. À l'étranger, en Autriche, le chancelier de droite, Sébastien Kurz, tente de garder la main aujourd'hui. Élection législative anticipée où les conservateurs restent favoris. Les Autrichiens revotent après l'explosion de la coalition entre la droite de Kurz et l'extrême droite, le FPE, balayée par un scandale au printemps dernier, son chef piégé avait accepté de prétendus financements russes. Ce scrutin est donc un test important pour la droite et l'extrême droite. On se demande, Louise Baudet, si elles peuvent se maintenir au pouvoir.
Dans ce bureau de vote du centre-ville de Vienne, Sébastien Kurz fait un tabac.
D'abord, il faut qu'il gagne, d'accord ? Et après, on verra.
C'est lui pour qui vous allez voter, n'est-ce pas ?
Oui, exactement.
Ensuite, avec qui Sébastien Kurz doit-il s'allier ?
Définitivement avec le FPE. Chaque parti a ses scandales et je pense qu'il faut faire la lumière sur les reproches qui lui sont faits. Mais du point de vue des programmes, ce sont ces deux partis qui s'accordent le mieux.
Une coalition droite-extrême droite saison 2, scénario possible, mais il n'est pas le seul. Les Verts ont le vent en poupe et pourraient créer la surprise ce soir. Alors en dépit de profondes divergences programmées, dramatique, pourquoi ne pas tenter cette alliance inédite?
C'est justement parce qu'ils sont différents qu'ils doivent s'allier, pour représenter la diversité de la société.
Johan, lui, a choisi le bulletin social-démocrate.
Il faut absolument empêcher cette poussée catastrophique vers la droite. Moi, je suis d'accord avec n'importe quelle coalition, mais sans Kurz ni l'extrême droite. Ce sera dur à obtenir, j'en conviens, mais l'espoir meurt en dernier.
Impossible en effet d'imaginer une coalition sans les conservateurs, crédités d'une très large avance, 33 à 35% des suffrages annoncés. Vienne, Louise Baudet, France Inter.
Deuxième journée d'affrontement à Hong Kong entre les manifestants pro-démocratie et la police anti-émeute. La crise ne s'apaise pas. Depuis cet été, les Hongkongais protestent contre la mainmise du pouvoir chinois sur le territoire indépendant. Et Pékin redoute que ce mouvement de colère ne gâche la fête mardi en Chine, les célébrations du 70e anniversaire du régime communiste. On reste dans la région pour le mondial de rugby au Japon. Et le 15 de France a davantage peur aujourd'hui de la météo, du typhon Mitag. Il pourrait frapper l'archipel mercredi, jour de match entre la France et les États-Unis. Et s'il était annulé, ça n'arrangerait pas du tout les affaires des Bleus, Jérôme Val.
Il s'appelle Mitag et ce typhon devrait aborder l'île de Kyushu dans le sud de l'archipel mercredi, le jour du match entre le 15 de France et les États-Unis qui doit se disputer à Fukuoka. D'après l'agence météorologique japonaise, les vents seront violents, les pluies abondantes. Elle précise en même temps que le typhon pourrait s'éloigner des côtes, mais la menace est réelle. L'équipe de France a été officiellement avertie, mais ça ne sert à rien de s'inquiéter, selon le capitaine des Bleus, Guillaume Guirado.
Beaucoup de gens nous en parlent, on nous en a parlé aussi pour le premier match contre l'Argentine. On est obligé d'y faire face, obligé de se préparer à condition, mais bon, on sait que ça peut arriver. Après, ça n'a rien de vouloir à tout prix maîtriser par rapport à la météo.
Un nouveau point sera fait demain et si la menace se précise, Mitag sera le cauchemar des Bleus. Le règlement est limpide. Si une rencontre est annulée à cause d'un typhon, le score est de 0 à 0 avec 2 points du match nul pour chaque équipe. Et dans un duel où les Français peuvent en espérer 5, ce serait clairement un handicap pour la course à la qualification. Depuis 3 semaines et l'arrivée des Bleus au Japon, c'est déjà le 3e typhon qui menace l'archipel. Kumamoto, Jérôme Val, France Inter.
Et dans ce mondial de rugby ce matin, le Pays de Galles l'a emporté sur l'Australie 29 à 25. Avant de refermer ce journal, nous retournons aux Invalides à Paris avec vous, Rémi Brancato, les Invalides, où le cercueil de Jacques Chirac est arrivé il y a quelques minutes. Rémi, quel est le détail du programme, les heures à venir aux Invalides ?
Eh bien, l'Élysée nous informe à l'instant qu'une cérémonie interreligieuse aura lieu à 14h ici aux Invalides, à la demande de la famille de Jacques Chirac. Alors qu'on a vu passer, vous le disiez, sur l'esplanade, peu après 13h, le cortège funéraire qui transportait le cercueil de Jacques Chirac, escorté par les forces de l'ordre évidemment, sous les applaudissements de la foule massée qui attend d'entrer aux Invalides. On a aperçu Claude Chirac, sa fille, derrière la vitre d'une voiture. Les visiteurs qui viendront se recueillir auprès de son cercueil pourront entendre des extraits de discours du président Chirac. Celui du sommet de la Terre en 2002 à Johannesburg, par exemple, ou encore sa dernière allocution à l'Élysée en 2007. Les anonymes repartiront aussi avec un livret qui contient lui aussi des extraits de discours.
Merci beaucoup Rémi Brancato en direct des Invalides. On vous retrouve dans nos prochaines éditions pour nous faire vivre cet hommage populaire à Jacques Chirac. Et pour ma part, je vous retrouve à 19h.